Dimanche dernier, on voyait la rencontre inattendue de Zachée et Jésus, deux personnes bien différentes. Et on avait mis l'accent sur la grâce que Jésus démontre dans l'initiative. Il va à la rencontre de celui qui est un paria, un exclu de la société et puis un collabo finalement pour l'époque. Et on a vu l'effet transformateur de cette grâce, de cette intervention dans sa vie. Maintenant, en ayant ça à l'esprit, on pourrait se dire, on a un peu fait le tour de la personne de Jésus. Finalement, c'est quelqu'un qui aime de manière inconditionnelle, qui va à la rencontre de ceux qui ne méritent pas vraiment son amour, mais qui les aime justement et qui change leur vie. Le message de Jésus, c'est un message de grâce. Est-ce qu'on a là résumé tout ce que c'est que son enseignement ? En fait, il y a une complexité à la personne de Jésus, une complexité qui est normale, comme n'importe quelle personne déjà, mais en particulier parce qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu. Est-ce qu'on pourrait vraiment résumer sa personne par une seule phrase ? Jésus nous aime de manière inconditionnelle. Il y a une complexité et dont on voit les traces dans cette parabole. Il y a des choses qu'on entend, qu'on lit là, qui ne sont pas forcément très attirants au départ, n'est-ce pas ? Si le message plein de grâce de dimanche dernier a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose qui fait un peu peur dans ce qu'on lit ici. Hein. À ceux qui pensent que le message chrétien a finalement le contour de nos aspirations, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie d'entendre, je pense que ce qu'on a lu là apporte un démenti. Ce n'est pas forcément ce qui nous attire. Il parle de la responsabilité établie pour chaque être humain dans la manière de répondre à son message, une responsabilité qui va être évaluée, jugée. Si Jésus fait preuve de grâce, ça c'est au cœur de ce qu'on va voir ce soir, si Jésus fait preuve de grâce, il est le roi. Et nous sommes responsables dans la manière de répondre à sa royauté. La parabole que Jésus utilise ici, et les paraboles en général, sont des outils intéressants qu'il utilise à la fois pédagogiques. Une histoire, c'est accessible à écouter pour n'importe qui. Et dans le même temps, il y a la force des images et on doit rentrer dans la parabole. Parfois, c'est plus complexe à comprendre. Et il y a la force d'une découverte à travers l'image. Maintenant, le danger dans l'interprétation d'une parabole, c'est de vouloir tout expliquer. Par exemple, quand on pense aux mines dont il est question, déjà il va falloir comprendre ce que c'est que les mines, hein, ce n'est pas des explosifs, mais dans ces mines dont il est question, est-ce qu'il faut comprendre quelque chose de précis ? Est-ce qu'on arrive à identifier précisément de quoi il s'agit ? Ces villes qui sont données en récompense aux esclaves fidèles, est-ce que c'est ça qu'il y aura, des villes à gérer dans la nouvelle création ? Avec une parabole, s'il y a bien des correspondances avec des vérités, il ne s'agit pas de tout expliquer. Il y a des éléments qu'il faut faire ressortir et d'autres où on reste un peu dans le flou. Le contexte dans lequel cette parabole est donnée, il est intéressant à relever. On le voit au début du passage. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'ils imaginaient, donc les gens là avec lui, que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait cette attente ? Pourquoi est-ce que les gens s'imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester ? D'une part, on a toute la première partie de la Bible qui nous parle d'une attente d'un Messie, d'un roi, dans l'Ancien Testament. La première partie de la Bible, on entend cette attente. Et là, Jésus se rend, après tout, dans la ville de Jérusalem, la ville du roi David. Compte tenu de son enseignement, de ses miracles, il a le profil de ce Messie. Et après tout, en sortant de la maison de Zachée, est-ce qu'il n'a pas dit « le salut est venu aujourd'hui » ? Alors est-ce que c'est pour tout de suite son règne ? Un des buts de cette parabole, c'est de nous dire qu'il y a un temps avant la manifestation de ce règne. Ce ne sera pas pour tout de suite. Si le salut est bel et bien disponible aujourd'hui, s'il est bien l'incarnation de ce roi universel, ce Messie, un temps doit s'écouler avant la manifestation, la pleine manifestation de ce règne. Il y a trois temps dans cette histoire. Il y a cette présence parmi les concitoyens, l'absence et le retour, la présence à nouveau, la manifestation du règne. Et pour parler de ces trois moments, on va tenir compte des tournants. Il y aura d'abord le départ d'un homme de haute naissance et deux, le retour d'un roi, du roi. On commence avec le départ d'un homme de haute naissance. Et on voit au verset 12 le début de cette histoire que Jésus raconte. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Ça peut-être nous paraître étrange que quelqu'un se rende à l'étranger pour être nommé roi dans une nation. Imaginez par exemple William en Angleterre qui se dise « Je crois que je vais aller à Paris pour me faire nommer roi d'Angleterre. » On se dirait « Mais c'est pas forcément le bon endroit pour être nommé roi. » Mais à l'époque, pour les auditeurs de Jésus, ça a du sens ce qu'il dit là. C'est inscrit dans la mémoire collective. La région vivait sous la domination romaine, l'Empire romain. Et en l'an 40 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand avait dû se rendre à Rome, quitter la région de Judée, de Jérusalem, pour se rendre à Rome, pour être nommé roi. Son fils, Archélaus, lui aussi s'était rendu à Rome, à la mort de son père, en l'an 4 avant Jésus-Christ, pour lui succéder. Et en entendant donc les paroles de Jésus, le début de cette histoire, il y a tout ce rappel de faits qui sont inscrits dans l'histoire de la nation. Avant de partir, cet homme de haute naissance convoque ses esclaves. Il ne faut pas voir un terme forcément négatif, péjoratif dans le terme esclave. Il y avait beaucoup d'esclaves et la condition des esclaves pouvait varier dans l'Empire romain. On verra qu'ils sont généreusement traités et ils ont des privilèges qui leur sont accordés. Il confie à chacun de ses esclaves une mine. Comme dit, ce n'est pas l'explosif, ce n'est pas la mine de crayon. Il s'agit d'une somme d'argent, une somme qui correspondait à peu près à 3 mois de salaire. Et ses consignes, c'est de faire des affaires sur la base de cette somme d'argent. On découvre par la suite qu'il n'est pas le seul à se rendre à l'étranger. Il est suivi par une délégation, une ambassade dans le texte. Et on découvre la raison de leur voyage. Les concitoyens, en fait, n'ont pas envie qu'il règne. On réalise qu'en fait, ils ne l'aiment pas, ils le détestent. Ils ne veulent pas de sa royauté. Et là encore, ça fait un parallèle avec Archélaus que j'ai mentionné tout à l'heure. Quand il s'est rendu à Rome, à sa surprise, il a aussi vu une autre délégation arriver à Rome, une délégation juive assez importante, qui s'opposait à son règne. Et cette délégation, elle a réussi à convaincre l'empereur Auguste de lui confier que la moitié du royaume de son père, et il sera nommé ethnarque plutôt que roi. Avec cet élément, cet arrière-plan et cette première partie de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce que cela veut nous dire au sujet de Jésus et de son règne? J'aimerais relever 3 choses, à mon avis, qui se trouvent dans cette première partie de l'histoire, ce départ d'un homme de haute naissance. Si Luc veut nous présenter Jésus comme un roi dans son livre, dans l'Évangile, en particulier au-delà de sa résurrection et dans son deuxième livre, l'Ascension, la manifestation de son règne, elle n'est pas pour tout de suite. Il y a des gens qui, autour de nous, peuvent dire « Mais Jésus, il est venu il y a 2000 ans. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça change ? Après tout, il y a toujours les guerres, il y a toujours les rivalités, il y a toujours la haine entre les nations, les peuples. » Qu'est-ce que ça a changé finalement, sa venue? Si la réalité de l'existence humaine, elle n'a pas changé, elle est semblable en bien des aspects à ce qui se passait avant sa venue, Luc veut nous dire à travers ces 2 livres qu'il y a une bonne nouvelle qui doit être proclamée. Un roi serviteur est venu nous offrir la réconciliation avec Dieu. Et ce message-là, il change notre manière de vivre. Il change notre manière de voir la vie. Et ce roi-là, il va revenir manifester pleinement son règne. Le deuxième élément que ce début de parabole révèle, c'est le rejet massif de sa royauté. Les concitoyens dans l'histoire, ils ne veulent pas que Jésus règne sur eux, et ils le font savoir. Le rejet, il est palpable dans le cas de Jésus. Dans les pages qui suivent, quand on continue dans l'évangile selon Luc, on voit que c'est un rejet massif. Il est livré de main en main, il est rejeté par le peuple, on demande son exécution. Mais il est réel encore aujourd'hui, ce rejet, n'est-ce pas? Si on devait sortir dans la rue de Sèvres et demander aux gens ce qu'ils pensent, en décrivant un peu la royauté de Jésus, le fait qu'il est digne de régner, lui qui est l'auteur de l'existence dans notre vie, il y a quelque chose à nous dire sur notre manière de vivre, notre manière de gérer notre vie. Comment est-ce que les gens réagiraient? Je suis pas sûr qu'il y aurait l'enthousiasme général. Aujourd'hui encore, ce rejet, il est palpable. Et s'il est un roi humble, plein de grâce, prêt à être couronné d'épines, dans les pages qui suivent, il n'en demeure pas moins le roi à qui tous sont redevables. Une royauté qui est malheureusement rejetée. Le troisième élément qu'on peut relever, à mon avis, sur ce texte, c'est que ceux qui appartiennent à Jésus, ses esclaves dans cette parabole, ceux qui lui appartiennent, ont la responsabilité de faire fructifier ce qui leur est confié. Quant à ce qui est confié à chacun, on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de dire précisément de quoi il s'agit, cette mine. Qu'est-ce que c'est? J'ai consulté seulement trois commentaires sur ce texte, mais ce qui frappe dans les trois, c'est que ces mines représentent, au minimum, si on veut en parler, quelque chose que nous avons reçu et que nous ne méritions pas. Ça, c'est clair. Quelque chose qu'on n'avait pas au départ et qui nous a été offert comme un cadeau. Une grâce. Et dans un sens, ça colle assez avec ce qu'on a entendu juste la semaine dernière avec Zachée. Il a entendu le message d'une invitation, d'un pardon, d'une réconciliation possible, alors qu'il ne le méritait pas. L'évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, ça pourrait être une bonne explication pour cette mine. Différente de la parabole des talents qu'on trouve chez Matthieu, où chaque serviteur là reçoit des sommes différentes, où on peut imaginer des dons différents accordés aux uns et aux autres. Ici, tout le monde reçoit la même chose. Une grâce, un pardon, quelque chose qu'ils ont reçu gratuitement. Et ces trois éléments qu'on a relevés là, soulève une question pour ceux qui se disciples de Jésus, et c'est peut-être votre cas ce soir, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous. Comment vivre avec cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée alors que Jésus n'est pas là physiquement? Comment est-ce que je vis avec cette bonne nouvelle alors que Jésus n'est pas là physiquement? Est-ce que je vais suivre ce que la majorité des gens autour de nous pensent à son sujet? Alors que la majorité des gens rejettent une quelconque autorité de la part de Jésus? Ou alors au contraire, est-ce que je vais vivre dans la foi, en sa royauté, et d'une manière toute différente? Il y a une période assez drôle avec Marielle. Dans un sens, je suis content qu'elle soit terminée. C'était une période où en fait, il suffisait de prendre une petite marionnette, la cacher derrière un mur, la faire apparaître. La cacher derrière un mur, la faire apparaître. Et à chaque fois, c'était la surprise, la découverte. Et le problème, c'est que c'était épuisant. Pas épuisant pour elle, en fait. Ça, on pouvait le faire à répétition, des dizaines de fois. Elle, c'est bon, elle était contente de le vivre. Mais au bout d'un moment, moi, j'en avais marre de refaire le même geste à chaque fois. En fait, c'est un certain Jean Piaget qui a étudié ses comportements. Alors, certains discutent l'âge précis ou la période dont il est question, mais aux alentours de 6 mois, en gros, quand un objet était caché à un enfant, pour cet enfant, il n'existe plus. C'est terminé, il est en dehors du champ d'existence. Et tout à coup, il apparaît à nouveau. Waouh ! Et on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas de voir ce petit miracle qui se reproduit. Mais dans les mois qui suivent, ce qui se passe, c'est que l'enfant réalise que l'objet existe, en fait, toujours, il est caché, mais il existe toujours. Il appelle ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Et alors qu'il est question de cela pour un enfant, est-ce qu'on va avoir cette même tendance à penser finalement que Jésus n'est plus là, il n'existe plus, sa royauté, elle n'a plus de sens? Quand je me promène dans la rue, quand vous vous promenez dans la rue, est-ce que je vois tous les signes d'une société qui vit comme si Jésus n'avait pas existé? Et donc j'en conclus que Jésus n'existe pas, que sa royauté, elle n'a aucun sens, qu'elle n'est pas du tout réelle. Ou alors est-ce que je réalise qu'il est bel et bien le roi? Que cette royauté, elle est cachée, c'est vrai, mais elle sera un jour pleinement manifestée. Est-ce que je vis dans cette perspective-là? Quand je subis une injustice avec quelqu'un, est-ce que je me dis, comment est-ce que je vais exercer ma justice vis-à-vis de lui? Quand il ne s'agit pas d'une affaire, d'un procès, comment est-ce que je vais imposer cette justice à l'autre qui m'a blessé dans son comportement? Ou est-ce qu'à ce moment-là, je vais avoir confiance en un roi qui va exercer la justice en temps voulu, qui exercera cette justice bien mieux que moi, je ne saurais le faire? Est-ce que je m'en remets à lui? On passe maintenant au deuxième tournant, le retour du roi. Le retour du roi. Et à quoi vous avez pensé quand vous avez entendu ça? Seigneur des anneaux, exactement. Eh bien, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce qu'on surnommait Aragorn au départ? Grandpa, ça c'est son surnom. Et aussi dans l'auberge, on l'appelle... Enfin, c'est un peu le nom qu'on donne à toute une catégorie, le rôdeur. On le voit soit comme un rôdeur ou grandpa. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est? Il est fils d'Arathorn et de Gilraen, petit-fils d'Arador. Bon, j'ai regardé sur Internet, hein, c'est pas de tête. Il est de lignée royale. On peut pas dire que Tolkien, il a bâclé son livre. Hein. Il a travaillé sur le sujet. Et en fait, dans les années où il a sorti son livre, par la suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié tout. Il a donné en quelque sorte toute la signification de chaque nom, des phrases utilisées. Il a voulu donner du sens à toute cette histoire dans le détail. Et des décennies après, les gens se posent encore des questions sur la signification de tel ou tel nom. On a des traces de correspondance entre des personnes qui demandaient à Tolkien quelle est la signification d'Aragorn. Et même si certains ont voulu repousser, comme Boromir ou Denethor, s'opposer au règne d'Aragorn. Vous savez ce que signifie son nom pour Tolkien? Il signifie roi révéré. Roi révéré. Il va être révéré. On arrive vers la fin et il va être connu comme le roi. Il va être respecté. Même par ceux qui s'opposaient à lui. Dans la parabole, il est question d'un homme qui cette fois-ci revient, investi de la royauté, il convoque ses esclaves et leur demande comment ils ont investi leur argent. Le premier esclave fait part d'un profit important. La mine a rapporté 10. Allez vers votre banquier et lui demander un intérêt comme ça. C'est du 1000%. Hein. C'est du bon. Hein. C'est une somme mirobolante en fait qu'il a pu retirer de cette mine. Semble-t-il, il y avait des moyens de bien rentabiliser son argent. En tout cas, c'est dans la parabole. Il en retire 10. Et comment est-ce que le roi réagit? Bien, il loue l'esclave. Il dit, c'est remarquable, c'est bien, tu es un bon esclave. Mais il fait plus que le féliciter. Il lui donne une récompense. Tu as été digne de confiance dans une petite affaire. Tu auras autorité sur 10 villes. Quand on pense à la différence entre l'argent qu'il a reçu au départ et la gestion de 10 villes, on a l'impression de quelque chose de disproportionné, d'énorme. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben dans les termes, on voit déjà que le roi applique un principe, fidèle dans les petites choses, on lui confie les plus grandes. Mais ça dit, au-delà, la grande générosité du maître, l'extrêmement généreux. En fait, il ne va même pas leur retirer ces mines. Ils gardent ça et ils sont récompensés la gestion de 10 villes. Grande générosité. Deuxième esclave se présente avec 5 mines obtenues. Il entend la même félicitation et il en reçoit 5. Il reçoit 5 villes à son tour. On ne passe pas tous les 10 esclaves en revue. Mais là, on découvre un troisième esclave qui se présente et qui lui dit « Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Je te craignais, en effet, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Qu'est-ce qu'on peut dire de cet esclave ? D'une part, on peut relever qu'il se montre dur dans la présentation de description du maître. À la différence des deux autres, on n'entend pas cette loyauté. Il n'a pas vraiment envie de l'honorer, son maître, avec son travail. En fait, il ne lui fait pas vraiment confiance. Il le craint. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a raison de voir son maître comme ça ? Ça ne colle pas avec la générosité du maître, le don au départ qu'il est fait, les récompenses démesurées qu'il fait, et le fait que chacun des esclaves qui a bien géré peut garder ses mines qui au départ n'étaient pas à eux. Extrêmement généreux. Non, ça ne colle pas avec le personnage. Et comment est-ce que le maître répond alors ? Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais esclave. » Tu savais que moi, je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Autrement dit, je ne veux pas te juger sur le décalage entre ce que tu penses de moi et la réalité. Je ne veux même pas juger. Je vais te juger sur tes propres paroles, sur la base de ta perspective. Même sur la base de ton évaluation, tu es condamnable. S'il le craint de cette façon, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait ? Si le maître récolte où il n'a pas semé, pourquoi est-ce qu'il n'a même pas mis l'argent à la banque ? Il aurait gagné un intérêt sans même avoir travaillé. Sur la base de ses propres paroles, la passivité dont il a fait preuve n'a pas de sens. En fait, cet esclave, il n'est pas cohérent. Et il est aveugle à la grâce qui lui a été faite. Son maître est un tyran et il prend ce qui ne lui appartient pas. La réalité, c'est précisément le contraire. C'est le maître qui lui a fait cette grâce, la grâce de cette somme, et il fait grâce aux esclaves fidèles en les récompensant de manière disproportionnée. Le roi demande que sa mine lui soit retirée, qu'elle soit donnée à celui qui a su mieux faire fructifier ce qui lui a été donné. L'histoire se termine avec les concitoyens qui détestaient le roi. Et comme c'était le cas à l'époque, ils sont mis à mort devant ce roi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce retour du roi ? Comment comprendre ses récompenses ? Déjà difficile à comprendre un message de grâce et de récompense, comment l'articuler ? Et plus difficile encore, comment comprendre le jugement sur ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux ? Là encore, j'aimerais relever 3 éléments. Si on commençait avec les récompenses, il faut dire qu'on sait, pour la nature précise de ces récompenses, on ne sait pas de quoi il s'agit. Dans cette nouvelle création dont la Bible parle, cette nouvelle terre, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il est question ici de gestion de ville, mais en fait, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agira. Mais on peut en tout cas voir une certaine continuité, à mon avis, en voyant ce texte et d'autres qui parlent de récompenses. Il y a une certaine continuité ici dans la gestion. Par exemple, si on considère que faire fructifier sa mine consiste à recevoir cet amour de Jésus et à répondre à cet amour de manière pleine et entière, à aimer les autres, eh bien on peut estimer que la récompense sera d'expérimenter cet amour avec d'autant plus de profondeur, de reconnaissance. Il y a une continuité. C'est pas comme si on va donner de l'argent aux pauvres et la récompense, ce sera descendre les Champs-Élysées en Ferrari. Quelque chose qui n'a aucun lien. Il y a une continuité, semble-t-il, entre l'investissement et la récompense. Mais on peut peut-être dire aussi quelque chose sur l'attitude. L'attitude qui est relevée dans les deux premiers, ce n'est pas quelque chose du genre « Jésus, donne-moi ce qui me revient. » Jésus, donne-moi ce qui me revient. Les deux premiers reconnaissent que Dieu ne leur doit rien, que le roi ne leur doit rien. Remarquez ce qu'ils disent à Jésus, ou plutôt au roi, « Maître, ta mine a rapporté. » On ne les entend pas dire « Voilà ce que j'ai su faire avec ton argent. Voilà ce que j'ai réussi à faire. » Non, non, c'est toujours « ta mine a rapporté. » Ils ont réussi à reconnaître qu'une grâce leur a été faite, quelque chose qui ne venait pas d'eux. Et c'est ça qui va les pousser à vouloir faire fructifier. Ça devrait nuancer en nous, qui sommes chrétiens ce soir, toute revendication, comme si, regarde cette semaine, Seigneur, j'en ai bavé au travail, j'estime que je mérite quelque chose de ta part, ou alors t'as vu tout ce temps que j'attends une réponse à ma prière, tout ce temps d'attente, mais je mérite quelque chose de ta part. Non, il y a une compréhension de la grâce, une compréhension de quelque chose d'une relation qu'il a inaugurée et qui nous permet de vivre de manière toute différente en reconnaissant qu'au-delà, il y aura aussi une grâce plus grande encore qui nous sera donnée. Le deuxième élément qu'on peut relever a à faire avec celui qui juge. Le 4 septembre dernier, on découvrait que dans l'affaire Doux, de l'entreprise Doux, de volaille, les syndicats demandaient le dessaisissement du tribunal de commerce de Quimper. Ils jugeaient les offres de reprise pas assez sérieuses. Derrière cette demande, il y a le fait de remettre en question l'autorité ou la place de ceux qui doivent exercer cette sentence. Une des déclarations, c'est « Nous demandons l'impartialité, les patrons qui jugent des patrons, c'est une justice de classe ». Jésus juge parfaitement, il est parfaitement à sa place. Il est à la fois l'auteur de l'existence et celui qui a vécu l'humanité de l'intérieur. Il est parfaitement habilité à juger. Et cette parabole rappelle que si un temps nous est accordé avant que ce jugement soit rendu, son jugement, il est incontournable. Personne, ce texte nous le dit, ne peut se dire ici en dehors de toute responsabilité vis-à-vis de lui. Personne. Si vous êtes chrétien ce soir, même si vous avez reçu cette grâce du pardon, la vie éternelle, vous êtes redevable de la manière dont vous allez vivre votre vie. Vous serez épargné de son jugement, de ceux qui ont refusé ce règne dans leur vie, mais il y a bien une notion de responsabilité. Un peu comme un enfant qui serait adopté dans une famille. L'adoption, elle n'est pas remise en question. Il est enfant de cette famille. C'est un cadeau qu'il a reçu gratuitement. Il ne doit pas faire quelque chose pour mériter d'entrer dans cette famille. Mais il peut vivre de manière à pas du tout le refléter. Il peut vivre comme s'il n'avait rien à voir avec cette famille et ne pas expérimenter le bienfait que cela représente. Mais ce que cette parabole nous dit aussi, c'est que ceux qui ne refusent son règne, il y aura une responsabilité devant lui. Ceux qui s'opposent à ce que Jésus soit roi dans leur vie, ils seront aussi sous son jugement. Il est inévitable. Pour l'un et pour l'autre, il y a une occasion à saisir et un moment où ça sera trop tard. Luc Ferry, dans un livre qui s'intitule « Apprendre à vivre », vers la fin, parle d'une manière de vivre. Lorsqu'on sait qu'on va mourir, il fait référence à ce qu'il appelle la sagesse de l'amour, et il fait la citation suivante, ou la déclaration suivante. Chacun sait bien, par exemple, qu'il faut se réconcilier avec ses parents, presque inévitablement, la vie crée des tensions avant qu'ils ne disparaissent. Car après, quoi qu'en dise le christianisme, c'est trop tard. C'est une belle invitation qu'il nous fait là. Sagesse de l'amour. On a certainement chacun des personnes avec qui il y a eu des tensions. Et cette sagesse de l'amour à laquelle il nous invite est belle. Se réconcilier. Aller au-devant des personnes qu'on a offensées et d'être prêt à demander pardon. C'est une belle sagesse. Mais que dire de cette petite remarque qu'il fait ? Quoi qu'en dise le christianisme, c'est trop tard. Est-ce que c'est vraiment ce que notre texte affirme ? Est-ce que le christianisme affirme vraiment qu'il n'est jamais trop tard ? Elle dit justement le contraire. Il y aura un temps où ce sera trop tard. Et on ne doit pas repousser notre action aujourd'hui. Troisième élément qu'on peut dire, et pour terminer, c'est la manière dont la parabole se termine, la réalité du jugement pour ceux qui rejettent son règne. Pour reconnaître que cette vérité du jugement de Dieu, de l'enfer, c'est une vérité qu'on a de la peine à méditer quand on pense à des personnes qui rejettent ce roi. Et on réalise aussi que c'est quelque chose qui n'est pas populaire. Écoutez par exemple la remarque d'André Comte-Sponville sur l'enfer dans son livre L'esprit de l'athéisme. Du néant, à le penser strictement, il n'y a par définition rien à craindre. Quoi de plus effrayant, à l'inverse, que la perspective d'une damnation éternelle ? Il est vrai que beaucoup de chrétiens ont cessé d'y croire. L'enfer ne serait qu'une métaphore, le paradis seul serait à prendre au pied de la lettre. On n'arrête pas le progrès. Il a raison quand on parle de quelque chose qui est effrayant. Il y a quelque chose d'effrayant dans ce jugement. Il semble avoir croisé pas mal de personnes qui, se disant chrétiens, ont renoncé à croire à cette doctrine. L'idée, c'est qu'ils sont prêts à retirer des choses qui ne sont pas belles à entendre, qui sont difficilement acceptables. Ailleurs dans son livre, et Ferry fait la même chose, le plus grand argument qu'ils ont contre le christianisme, c'est que c'est trop beau pour être vrai, que ça correspond trop à ce qui nous arrange. Mais si on est fidèle à l'enseignement de Jésus, si on est fidèle à ce qu'il annonce ici, on ne peut pas y renoncer. La réalité du jugement fait partie de son message. Que ça nous arrange ou pas. Et en fait, en réalité, selon la culture d'où l'on vient, on va être heurté par l'un ou l'autre des éléments. Dans une société traditionnelle, par exemple, on est heurté par l'enseignement de Jésus sur la grâce. Tendre l'autre joue. Pour eux, la vérité d'un Dieu qui juge, par contre, elle pose aucun problème. Une justice, ça c'est ce qu'on veut. Dans notre société occidentale, par contre, on est atterré par un message de grâce, d'amour inconditionnel. On a beaucoup plus de peine avec la question d'un jugement. Le message de Jésus maintient les deux, l'un et l'autre. Que ça nous arrange ou pas, il les annonce tous les deux. Et les deux sont présents dans la trajectoire qu'il suit. On le voit dans les lignes suivantes. Est-ce que Jésus entre à Jérusalem à la manière d'un cavalier vengeur, une épée à la main ? Non. Il est monté sur un âne, plein de grâce, il vient dans la simplicité et l'humilité, versets 28 à 40. Est-ce qu'il affirme pour autant que Jérusalem peut le rejeter sans conséquence ? Non. Il affirme qu'un jugement aura bel et bien lieu, versets 43 à 45, et il en pleure. Il en pleure de ce jugement qui va tomber. Que ça nous arrange ou que ça ne nous arrange pas, si Jésus fait preuve de grâce, il est le roi et nous sommes responsables dans la manière de répondre à sa royauté. Alors comment est-ce qu'on va répondre à cette affirmation ? Je vous invite à prier.